Actu SF, les podcasts.
Bonjour, bienvenue à la table ronde sur la consacrée à la mécanique du corps chez David Cronenberg. Alors, pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie Dubois, qui est enseignante en lettres modernes, et Karim Sitayeb, chercheur à l'Institut du Thorax, notamment au CNRS, et qui s'intéresse particulièrement à l'utilisation des cellules souches et à la génétique. C'est bien ça? Quelques précisions, peut-être? C'est bien ça. Alors, puisqu'on parle justement de médical avec cette dernière profession, il y a un point important, à mon avis, qu'on pourrait tout de suite aborder concernant David Cronenberg, c'est le fait qu'avant de passer dans le cinéma, avant d'être réalisateur, Cronenberg avait commencé des études de biologie, qu'il a abandonnées, donc. Mais dans quelle mesure, selon vous, cette idée d'aller d'abord vers la science et en plus la biologie a-t-elle pu influencer son œuvre ?
Bon, moi, je pense qu'il y a vraiment une continuité, en fait, justement, dans son existence, hein, entre sa filmographie et, justement, ses études. Et que ses études, même si il était d'un milieu artistique, par ailleurs, ses parents étaient des artistes, ça a vraiment nourri son imaginaire et son œuvre est peuplée de scientifiques, de médecins, psychiatres et tous les représentants possibles et imaginables du corps médical. Donc moi, je pense que c'est tout à fait fondateur, en fait, de sa filmographie, ces études-là. Voilà.
C'est vrai qu'en regardant surtout ses premiers films, il y a vraiment ce lien qu'il y a avec le corps médical ou paramédical très fort et qui nous a fait poser la question de savoir, avant de savoir que lui-même avait effectué des études en sciences, biologie ou médecine, savoir si en fait dans sa famille il y avait un lien avec cette je ne sais plus comment dire ça. Enfin, en fait, on se demandait si un de ses parents était médecin ou chercheur, et si il y avait, quel était le lien qu'il y avait. Donc, on a réalisé que lui-même avait fait des études dans ce sens et que ça a largement influencé le rapport qu'il a avec
avec le corps, tout simplement, ouais. Justement.
Et la profession.
Oui, la notion organique. Bon, généralement, on découpe la carrière de David Cronenberg en deux ou trois phases. Bon, on va surtout s'intéresser en fait aux premières, parce que la dernière est davantage portée sur la psychologie ou le social. Au départ, Cronenberg s'est rendu célèbre pour un genre qui a été surnommé de body horror. Vous considérez ce genre, et parce que bon, il faut quand même voir que là, on est vraiment dans la série B, la plus totale. On est dans une frange, je ne veux pas dire extrémiste, mais vraiment en marge du cinéma, même un cas particulier du cinéma d'horreur. Comment envisagez-vous cette notion de body horror ?
Eh bien, moi, je pense que oui, il est effectivement issu de deux milieux qu'il a finalement réussi à très très bien mêler dans des shows complètement baroque et assez extravagant, qui sont d'une part le cinéma d'horreur, la série B la plus classique qui soit, et aussi la pornographie, parce qu'il vient lui-même du cinéma pornographique, il a financé et dirigé des films pornographiques, et je pense que ce mélange des deux sont vraiment fondateurs, justement, là aussi, de son imaginaire. On peut prendre son premier film Shivers, dont on voit toujours pas si, dont on voit l'affiche vite fait, ben voilà, justement, on est vraiment dans, on va dire, des poncifs du cinéma d'horreur, avec la main ensanglantée, les cheveux emmêlés, enfin tout ce que l'on voudra, et en même temps l'actrice, je pense à Rabid qui en plus lui mêle, c'est son deuxième film, celui qui viendra juste après, voilà celui-ci. qui est jouée par une actrice qui vient du monde de la pornographie, justement, Marilyn Chambers.
Alors, je précise juste comme ça pour resituer. Shivers, que l'on connaît sous le titre français de Frisson, oui. 1975. Je vous lis le synopsis de manière à... Et, du coup, ça permettra de, savoir, de comprendre pourquoi il y a eu justement l'analgame avec l'actrice porno. Le synopsis. Dans un ensemble résidentiel de Montréal, des parasites artificiellement créés par un médecin se mettent à attaquer les résidents, provoquant une explosion de rage sexuelle généralisée. Voilà.
Alors, pour rebondir un peu sur ce que disait Nathalie, c'est vrai que la première fois où j'avais vu ces films, donc c'était sans le background scientifique que j'ai maintenant. Donc il y a ce côté body horror avec des choses qui se glissent dans le corps des gens, du gore un peu partout, des scènes un peu horrifiques, mais avec un peu de recul plutôt du côté scientifique. Il y a quelques idées derrière intéressantes. Donc si on prend par exemple le cas de Shivers, donc Shivers en fait le dans ce complexe hôtelier, il y a un chercheur qui obtient des financements du gouvernement canadien avec l'idée d'utiliser des parasites pour pour remplacer en fait pour avoir une alternative à la greffe d'organes. Donc avoir des parasites qui par exemple pourraient suppléer aux fonctions hépatiques et d'intégrer ça dans le corps humain pour des personnes qui ont des maladies hépatiques particulières. Et donc d'avoir cette approche un peu de corps étranger qui viendrait aider la personne. Mais son plan secret fantasmagorique était de pouvoir ajouter un parasite avec des ce côté pulsion sexuelle, enfin qui va créer des pulsions sexuelles avancées pour que l'humanité se rejoigne dans une espèce d'orgie générale qui serait l'apothéose et le bonheur continuel de l'humanité.
Donc oui, au-delà de l'orgie, ce qu'ils cherchent, c'est vraiment l'orgasme, hein, en fait. C'est un orgasme généralisé qui, par contre, déclenche une orgie généralisée, on est d'accord.
Et du coup, ça se concrétise par ces parasites qui peuvent sortir du corps et affecter d'autres corps et créer cet état d'hyper...
L'infection qui passe aussi par le sexuel, puisque dans Shivers, ça pénètre par le vagin d'une femme d'une manière tout à fait sans équivoque.
Donc l'orgasme est une maladie sexuellement transmissible.
Voilà, pour lui en tout cas. Ouais.
Vous parliez tout à l'heure de Rabid, c'est-à-dire en fait Rage en français, 1977. Alors là, je donne également le synopsis. Suite à un accident de moto, on tente sur Rose une greffe de peau qui échoue. Alors plus tard, on reviendra sur le thème assez récurrent du savant et des expériences médicales ou des tentatives médicales ratées chez Cronenberg, parce qu'en fait, il y en a beaucoup. Un organe pousse sous son bras, qui doit pomper le sang d'autrui pour satisfaire sa soif. Mais chaque contact contamine la victime. Alors là, on revient sur l'idée de contamination.
Oui, donc on revient effectivement sur l'idée de la contamination qui là, cette fois-ci, est une contamination du corps social en fait. C'est-à-dire que non seulement elle va être contaminée, elle va être un espèce de patient zéro,
oui.
Hein, une première victime. Et à partir d'elle, la maladie va se propager dans toute la ville. Et va être extrêmement menaçante pour l'ordre social, puisque les gens atteints de rage sont extrêmement dangereux. On retrouve là, je trouve moi, des imaginaires vraiment très proches des pestiférés, du Moyen-Âge et du traitement des corps qu'on a pu avoir à ce moment-là, hein, c'est-à-dire sans débarrasser, sans ménagement et sans considération. C'est ce qu'on voit là sur l'image d'ailleurs, puisqu'elle est jetée dans un camion poubelle. Enfin, c'est la fin.
Comme beaucoup de corps, en fait.
C'est une scène d'une dureté incroyable.
Oui, c'est absolument, c'est terriblement violent, effectivement, cette fin avec cette femme, le corps raidi balancé comme une ordure. Il y a pas d'autre mot.
En fait, il y a ce côté. L'image qu'on a mis ici spécifiquement, c'est pour reprendre ce que vous disiez, Olivier. L'expérience, en fait, c'est même pas une expérience parce que c'est apparemment
une
pratique routinière pour, dans ce cas, une personne qui a eu un accident de moto et qui nécessite une transplantation de peau pour pouvoir reconstituer la peau. Et donc, ils prélèvent la peau au niveau de la cuisse, font un traitement à cette peau pour pouvoir la greffer. Et là, il y a quelque chose qu'on comprend pas qui arrive et donc qui souligne un peu le côté savant fou qui manipule des objets sans trop savoir connaître les conséquences et donc le développement de ce nouvel organe. Donc non seulement il y a la transformation de la personne qui est un peu une victime qui devient malgré elle ce qu'elle est et l'impact que ça a sur la société. Donc c'est assez intéressant en fait parce que ça continue un peu sur la dynamique de Shivers. Donc Shivers, c'est dans un environnement confiné. Donc le côté pulsion sexuelle qui se transmet se fait uniquement dans ce complexe dans hôtelier. Et ensuite, le film se finit avec les personnes qui partent vers la ville. Et là, on a vraiment l'ouverture sur la ville et la catastrophe que ça engendre avec la réponse du corps social en présence, qui réagit violemment à ce corps étranger social, et donc qui va chercher à le détruire et à s'en débarrasser. Il y avait un autre truc que je voulais évoquer.
Sinon, j'allais rebondir. Ce que je trouve intéressant, en fait, c'est que dans Shivers, le traitement est drôle, hein, quand même. C'est-à-dire que cette orgie sexuelle qui semble vouloir se propager à toute la ville et qui transforme les personnes, on va dire, en satyres ou en bacchantes, plutôt vraiment comique. Et moi, j'y vois en tout cas une image de la libération sexuelle des années 70. Alors que dans Rabid, on rigole plus du tout. Hein, voilà.
C'était pathologie en fait.
Voilà, là le côté pathologie, contagion, dangerosité, ça fait au contraire extrêmement peur. Hein. Il y a aucune volonté du corps social de comprendre ou d'endiguer autrement l'expansion de la maladie. Et voilà. Et ça fait effectivement, moi en tout cas, ça me fait penser à ce que deviendra en tout cas le sida et les personnes sidaïques très rapidement dans les années 80.
Aussi parce qu'entre les deux films, il y a une différence, c'est que le premier est une contamination par un agent extérieur qui change principalement le comportement, alors que l'autre film, par contre, on a réellement une transformation radicale du corps.
Tout à fait, c'est une autogreffe, donc ça vient d'elle-même. Ouais. Il y a une manipulation qui est faite, et c'est elle qui se transforme, qui transmet ce mal. Et juste pour rebondir, il y a aussi, donc c'est assez rigolo, en faisant un peu de recherche sur Internet, on voit l'écho de ces deux films en particulier sur la vague de Romero avec tous les films zombies qui sortaient à la fin des années 60, où là, en fait, on a, non pas parce que dans Dawn of the Dead, en fait, quand le film commence, on a déjà des zombies qui sont présents et qui contaminent les gens. Alors que là, on a vraiment le côté genèse. Qu'est-ce qui s'est passé pour que on ait ces corps qui deviennent étrangers au corps social et qui transforment tous les gens?
Alors, il y avait le point dont je parlais tout à l'heure, à savoir l'intervention du médecin, du scientifique. Il peut y avoir une quête de profit, soit une quête du beau. Pour effectivement Rage, on a une reconstruction chirurgicale esthétique qui mène à une métamorphose du corps. Dans Crimes of the Future, c'est un produit cosmétique qui cause des millions de victimes. Donc là aussi, au départ, il y avait une volonté disons positive d'utiliser la science et qui se retourne contre la clientèle. Et puis il y a assez régulièrement en fait chez Cronenberg des mises en évidence de dérives. Alors c'est particulièrement évident dans Vidéodrome par exemple, dans La Mouche, dans The Fly, donc ça c'est clair. Et puis bon, évidemment, dans Frisson, on l'a vu, puisque le virus est créé par l'homme. Alors, il y a une question que je me suis toujours un peu posée, c'est est-ce que Cronenberg ne serait pas finalement un moraliste, au sens où, même s'il se déclare athée hein, dans un certain nombre d'interviews, mais dont le message passerait par le corps, à savoir, bon, vous avez voulu, vous avez eu des intentions de puissance par rapport à un ordre établi et vous avez le feedback négatif de votre intervention, ce qui est finalement un message plutôt d'ordre judéo-chrétien, moraliste judéo-chrétien.
Alors moi je suis vraiment très d'accord avec toi parce que, alors moi je voyais un peu différemment, mais je trouve qu'il a une image de la femme extrêmement judéo-chrétienne et très très moralisatrice, dans le sens où quel que soit le film que l'on prend, la femme est toujours toujours le vecteur de l'infection, enfin de la maladie. Dans The Fly, on pourrait se dire pourquoi est-ce que je dis ça ? Eh bien, tout simplement, c'est parce que c'est du moment où il va rencontrer cette journaliste qui finalement va lui permettre d'avoir les clés de la téléportation indirectement, mais voilà. Et pour moi, oui, Cronenberg est profondément un moraliste et il a une vision finalement très très. Je me permettrais presque d'aller jusque dire parfois très régressive quand même de du corps de la femme, de la dangerosité qu'elle. Enfin, moi, je trouve qu'on est en plein Adam et Ève, quoi, quelque part encore.
Après, il y a le côté aussi. Essayer de faire attention à ce qu'on fait, les conséquences en fait des manipulations faites. Et ça, c'était une des remarques de Pasteur, qui était que du moment où on fait une découverte, avant de pouvoir l'appliquer chez l'homme ou d'avoir vraiment une retombée sur le social, il faut compter au moins 10 ans. Et on a toujours tendance à vouloir aller trop vite et à ne pas avoir assez de recul pour mesurer les conséquences de ce qu'on fait. Donc je sais pas s'il y a un aspect judéo-chrétien pour ce point de vue. Je pense qu'il y a aussi le côté un peu éthique de comment une avancée scientifique peut aider le plus grand nombre sans être néfaste.
Oui, moi ce que j'allais rajouter, c'est que souvent justement les médecins chez Cronenberg manquent singulièrement d'éthique. Voilà.
C'est le cas par exemple ici dans The Brood,
voilà,
où on a une approche donc qui n'est pas médicale dans le sens où c'est pas la manipulation du corps, mais c'est la psychanalyse. Et à travers ça, il y a le développement d'une méthode qui va permettre d'extérioriser ces angoisses, ces rages, ces fantasmes, mais sans en avoir le contrôle ou sans se dire en fait quelles vont être les conséquences de cette extériorisation. Et particulièrement dans The Brood, ça devient assez dramatique.
Oui, donc je vais faire déjà un petit résumé de l'histoire. On a donc affaire à un gourou qui ressemble vaguement à un psychanalyste, dans le sens où sa thérapie consiste à révéler l'inconscient. Donc à opérer une sorte de catharsis pour que les gens aillent mieux. Sauf qu'en fait, c'est cette libération de l'inconscient va générer des manifestations physiques dont il perd rapidement complètement le contrôle. Et notamment dans le cas du personnage principal, elle est là pour faire une thérapie, on va dire, sur pour comprendre l'origine d'une maltraitance maternelle qui se reproduirait de génération en génération. Et en fait, son corps va se mettre à expulser des embryons de manière complètement aléatoire, hein, comme on peut le voir, et de manière complètement délirante. Et en fait, ces embryons assouvissent des fantasmes de vengeance. Voilà. Après, ils ressemblent à ça quand ils ont grandi un petit peu. Et ils vont tuer. et assouvir sa soif de vengeance.
En fait, ils vont répondre à son inconscient dans le sens où si par exemple quelque chose de négatif arrive dans sa vie privée, ça va avoir un effet direct sur les acteurs de cette de ces événements qui vont être la cible de ces créatures qu'elle génère. Donc effectivement là il y a un côté assez entre guillemets amusant sur la façon dont il a essayé d'aborder ça. Donc la personne va on voit plusieurs cas d'extériorisation de fantasmes dans le film. Donc il y en a un où la personne va retourner en enfance et puis ça va se matérialiser par
un espèce de père très très autoritaire,
des pustules ou des marques de coups. Une autre personne que un des protagonistes, enfin le mari de la femme qu'on a vu avant, va rencontrer en fait cette personne de par l'extériorisation de ses angoisses. A réussi à développer un cancer lymphatique assez imposant physiquement au niveau de la gorge. Et donc cette femme, donc qui devient un peu la chouchou du gourou, va elle extérioriser ses fantasmes par générer des embryons extra-corporels même, pas extra-utérins, qui ont eux-mêmes, donc il y a toute une espèce de pseudo-biologie autour de ces embryons, et donc ils ont des sacs en fait au niveau du dos qui leur permettent de survivre jusqu'à un certain âge, et ensuite ils meurent. Et tous sont un peu sur l'archétype de sa fille, donc avec ce physique en particulier, et donc vont être l'espèce d'arme inconsciente de leur mère pour cibler des personnes et les tuer.
Alors là, on est clairement dans la psychanalyse et l'expulsion de fantasmes, de pulsions et de problèmes que l'on a eu dans son enfance. Alors, la psychanalyse est extrêmement présente dans le cinéma de Cronenberg, et c'est un des rares en fait réalisateurs à l'avoir mis en scène visuellement de façon aussi claire. Mais quand on regarde déjà les scénarios, je vais juste citer quelques titres, avec le rapport au corps, à soi et à l'esprit. Alors bon. Plus tard dans sa carrière, dans Dangerous Method, Cronenberg mettra en scène Freud et Jung, ce qui, bon, de toute façon, déjà révèle l'intérêt du réalisateur pour la psychanalyse. Dans Maps to the Star, le père est psychothérapeute. C'est encore un film récent, donc qui est plutôt de la dernière partie. Il y avait déjà un rôle de psychiatre donc dans Chromosome 3, comme on vient de le voir. Il y en avait un autre dans Vidéodrome aussi. Et quelles sont pour vous les influences qu'a pu recevoir Cronenberg par rapport à l'enseignement de la psychanalyse, par rapport à toutes les théories de la psychanalyse?
Bon, moi, je pense qu'il y a un intérêt
personnel déjà.
Personnel, certain pour la psychanalyse. Moi, je trouve, même au-delà de la mise en scène de personnages de psychanalystes, très clairement, c'est qu'il met en scène des troubles. Enfin, moi, je pense que Rabbit, par exemple, c'est une image de la nymphomanie. Je pense que Faux-semblant, c'est une névrose fusionnelle, enfin des choses comme ça, que Existence peut éventuellement parler d'une névrose d'angoisse.
Chromosome 3, il y avait aussi un lien plus personnel au niveau de sa vie privée.
Oui, il y avait un lien personnel au niveau de sa vie privée, où effectivement, il en a beaucoup voulu à sa femme son ex-femme qui s'est mise sous la coupe d'un gourou New Age et qui a pris sa fille avec eux, et Cronenberg a enlevé leur fille. Enfin, c'est exactement le scénario de Chromosome 3 en fait. En réalité, hein, c'était sans filtre. Et moi, je pense qu'il a une véritable fascination pour ça, en même temps que. Je sais pas si je pense qu'il y a aussi une réticence quand même par rapport à la psychanalyse et à sa capacité à soigner. Enfin, voilà, moi je dirais ça comme ça. Il met en scène des personnages de psychanalystes, il y a quelque chose qui le fascine, Et en même temps, il interroge la capacité de soins, la capacité thérapeutique.
Au même titre, moi, je dirais quelque chose comme ça. Point de vue médical, avec les conséquences de manipulation que peuvent avoir sur la personne en soi ou même son entourage, ça peut être du même acabit où on n'est pas, peut-être même encore plus dans le sens où on n'a pas vraiment idée des répercussions que ce type d'approche ou d'analyse peuvent avoir sur le développement de la personne, sur son évolution personnelle avec le temps et son entourage.
Alors, ceci dit, chez Cronenberg, on parle énormément de la modification du corps. C'est pour cela qu'il y a la table ronde, puisque bon, c'est vraiment un des cinéastes les plus liés justement à la notion de corps. Quand on part sur la piste psychanalytique, on part du principe que il y a une cause sous-jacente, souterraine, inconsciente, et que du coup, le corps devient une sorte de mise en œuvre physique du germe d'origine. Ceci dit, l'inverse existe également, et ça, c'est enfin, je pense, mais j'aimerais vous poser la question, à savoir que, par exemple, si on prend The Fly, donc la mouche. Dans quelle mesure, par exemple, mais on pourrait prendre d'autres films de Cronenberg, dans quelle mesure la modification du corps modifie-t-elle le comportement, la personnalité du personnage ? Et du coup, quel est le lien entre psyché et corps ?
Ben oui, ça, je pense qu'effectivement, c'est la question de fond. Hein. L'identité, elle se modifie pour chacun de manière
naturelle au cours de son évolution.
Voilà. Et je pense que l'intérêt de Cronenberg, c'est d'interroger ça à travers le prisme d'une modification qui est toujours violente et extrêmement rapide. Et effectivement, la mouche est un excellent exemple. Puisqu'à un moment donné, le personnage nous dit qu'il est une mouche qui a rêvé d'être un homme, hein, donc en inversant les choses. Et ce qui est extrêmement compliqué pour lui, c'est justement de se situer en tant qu'humain dans ce nouveau corps. Il organise un espèce de musée de lui-même dans sa salle de bain, hein, où il récupère des morceaux d'oreilles et autres. Il est aussi, il conserve les liens avec les autres. Hein, le lien d'amour avec sa compagne est conservé, même si évidemment il est lui aussi transformé. Voilà, j'ai un peu perdu le fil de ce que je t'en veux dire.
Moi, j'ai trouvé que ce film était il très fouillé, en fait, parce qu'il y a vraiment plusieurs niveaux. Il y a le côté très science-fiction sur la téléportation. Donc, on a eu la présentation de Roland Look ce matin sur la téléportation, avec l'exemple de la mouche et puis l'explication physique de la téléportation.
Il a d'ailleurs bien dit qu'en fait, l'espace de réception pouvait être n'importe où.
Oui. Alors là, en l'occurrence, donc il y a ces deux pods avec un lien. Cet aspect-là est assez rigolo. Donc moi, du côté scientifique, quand j'ai revu le film, je me suis posé la question de savoir, ok, dans la mouche, en fait, il décrit le fait que la mouche ait été intégrée dans la machine et que à la fin, l'ordinateur désassemble l'individu et le réassemble. Mais sauf que il y avait deux individus et à la fin, l'ordinateur ne comprend pas qu'il faille rassembler deux individus. Donc, il ne rassemble qu'un individu. Donc, il y a une espèce de, il appelle ça shaker génétique. Donc, il fusionne la formation de la mouche, la formation génétique de la mouche à celle de l'homme, qui va contribuer à sa transformation physique et mentale. Alors, d'un point de vue, si on veut essayer de fouiller de façon rigoureuse, en fait, une mouche et un homme, c'est très différent pour plein de choses, mais notamment en termes purement physique, le nombre de cellules, donc le nombre de copies d'ADN présents dans les deux individus. Donc si on reprend ce qu'a présenté Roland Look, c'est que on a un nombre fini d'éléments qui vont fusionner. Et donc chez l'homme, c'est à peu près 40 000 milliards de cellules. C'est beaucoup moins chez la mouche. Donc la cohérence qu'il peut y avoir dans le film à ce niveau-là, c'est le fait que toutes les cellules ne peuvent pas contenir de l'ADN de mouche, où c'est complètement dispersé, et donc les effets peuvent être complètement aléatoires, et d'avoir quelque chose d'aussi ordonné qui arrive à cette personne à ce moment-là est complètement improbable. Donc ça, c'est le côté scientifique. Maintenant, il y a je pense que c'est un des films où on a vraiment l'introspection du personnage sur sa modification. Parce que on le voit, donc là il y a le côté vraiment physique, mais il analyse, en fait lui-même est scientifique et il analyse l'effet de cette transformation sur son corps et sur sa façon de penser. Donc la mouche qui rêve d'avoir été un homme. Et puis
ce que disait Roland Le Houx ce matin aussi, hein, puisque sa première question quand il sort du
l'identité avec oui.
C'est qui suis-je ? Je suis quoi maintenant que je me suis téléporté ?
Tout à fait. Et là, en l'occurrence, il savait pas encore qu'il y avait la mouche, et du coup, il y a cette transformation. Et je pense que cet aspect ont été moins fouillés dans les films précédents, où là, par exemple, dans Rabid, la femme elle est plutôt victime de sa transformation, et puis elle va contaminer les gens. Elle se pose pas la question de savoir, mais qu'est-ce qui m'arrive, comment je fais. Et là, il y a vraiment cette approche de qui je suis, qu'est-ce que je deviens, quel est l'impact sur la femme que j'aime, sur ma descendance, voilà.
Cette approche, on l'a aussi dans Dead Zone, cette volonté de comprendre ce qui arrive.
Oui, tout à fait.
Ça,
après,
c'est vrai, oui. Oui. Dans Dead Zone, effectivement, d'une manière quand même différente, il y a un aspect extrêmement introspectif du personnage et qui est aussi peut-être en lien avec la capacité qu'il acquiert finalement, une espèce de surempathie qui lui permettrait de...
Ouais. Pour revenir sur l'assemblage homme et mouche, ou même sur d'autres films, la manière dont un organisme étranger peut cohabiter ou parasiter l'être humain, ce qui est assez remarquable, c'est que j'ai le sentiment que systématiquement, c'est l'organisme le plus primitif qui survit et qui supplante l'être humain, qui est, bon, selon nos critères, et biologiquement c'est quand même un petit peu vrai, quand même supérieur. Alors soit ça se fait par les pulsions, soit ça se fait génétiquement, bon, par exemple avec la mouche. Est-ce que l'on peut considérer qu'il s'agit d'un pessimisme, d'un pragmatisme? Là encore, est-ce qu'il y a une crainte du... Même si l'expression n'est plus tellement, enfin le concept n'est plus tellement utilisé, de cerveau reptilien, de souvenir du moment où on était quand même finalement beaucoup moins évolué. Qu'est-ce qui se passe là pour vous chez Cronenberg?
La facilité d'un modèle plus primitif sur sa survenue, enfin sa réalisation dans un environnement où il y a énormément de contraintes, probablement, oui.
Ben moi, j'y vois aussi une résurgence de son intérêt psychanalytique, hein, dans le sens où l'organisme extrêmement primitif lui permet de toujours revenir à l'origine de la pulsion, à ce qui nous anime en tout premier, et le sexuel en particulier.
Donc là, on a mis une photo qu'on a trouvée assez rigolote, parce qu'on, en fait, en regardant le film, donc c'est surtout sur la fin au générique qu'on a vu que Cronenberg était dans le film. Donc on s'est posé la question de savoir mais où, et on a pu trouver qu'effectivement il était au moment où la compagne de Seth, qui porte en elle l'enfant de leur union, décide d'avorter. En fait, elle a un rêve où au moment de l'avortement, le médecin accouche de la mouche. Donc il accouche d'une espèce de larve énorme. Et donc le gynécologue, c'est lui-même, quoi. Donc il est dans ce processus vraiment d'accouchement de cet organisme plutôt primaire.
Il y a aussi une dimension très importante chez Cronenberg qui fait que ce n'est pas un cinéaste uniquement de films d'horreur finalement, mais un cinéaste de science-fiction, c'est l'importance de la technologie. À savoir que ce soit un médecin qui mette au point des systèmes qui vont pas vraiment faire leur preuve, mais en tout cas qu'il y ait une conception ou que l'on fabrique une machine, bon, par exemple effectivement pour se télétransporter, ou alors prenons un film dont on n'a pas encore parlé, et pourtant c'est un des plus beaux à mon avis, c'est Existence, à savoir comment raccorder le corps à un système, Alors, on va dire technologique plutôt que mécanique, parce que bon, la représentation est quand même extrêmement organique. Il y a rien, enfin, ce n'est pas créé directement par la. Les situations ne sont pas engendrées uniquement par la, disons, une mutation biologique qui interviendrait presque par hasard. Il y a toujours de la technologie qui est mise en œuvre. Est-ce que vous pourriez développer
là-dessus?
Donc
dans Existence, les personnages choisissent, ou pas d'ailleurs, de se faire greffer ce qu'ils appellent un bioport. Qui est relié directement sur leur colonne vertébrale, et ensuite ce bioport leur permet d'accéder à une interface du genre de jeu vidéo, et le fait d'être relié au bioport passe par ce que l'on pourrait appeler un cordon ombilical. Hein, quelque chose d'extrêmement voilà, là on voit très bien donc quelque chose qui pour nous en tout cas relève absolument de la technologie et du plastique le plus pur devient chez Cronenberg un objet un objet au contraire biologique, et l'interface est presque à la limite d'avoir des sentiments, d'avoir besoin d'être rassurée, caressée.
Elle pleure.
Voilà, elle couine, elle pleure, elle se manifeste. Donc là, effectivement, on est dans une dans une sorte d'hybridation, hein, puisqu'il y a plus de il y a le choix de l'introduction dans le corps, quoi. Enfin, c'est totalement différent des histoires d'infection.
Alors, c'est intéressant parce que en fait, donc le pod, comme on voit là, donc ça a peu, donc avec un lien au niveau directement de la colonne vertébrale par une espèce de cordon ombilical qui est un peu une espèce de maman qui amène les individus dans ce monde virtuel. Et en fait, c'est quelque part peut-être une projection de la conscience sur l'interface qui nous amènerait dans ce monde virtuel, parce que désolé pour le spoiler si les gens n'ont pas vu Existence. Mais en fait, le pod n'est pas une réalité. C'est une projection. C'est dans le jeu, parce que la réalité, les joueurs ont une espèce de casque qu'ils ont sur le cerveau avec juste une lecture des ondes cérébrales et aucun lien avec le corps. Le bioport et le pod se fait dans le jeu. Donc c'est tout un fantasme des joueurs entre eux. Pour accéder à cet univers virtuel et ensuite avoir ces différents rôles dans ce jeu, une espèce de GN dans un univers virtuel où il y a une influence des deux protagonistes sur l'effet du groupe.
Oui, de la même façon, on trouve aussi, c'est vraiment le jeu de mots, des espèces d'insectes que l'on retrouve assez régulièrement et qui sont clairement en fait des problèmes d'interface. Ils appellent ça des bugs. Donc c'est représenté vraiment par par des insectes. Donc là évidemment il y a
une deck de tête.
Voilà. Bon, et alors là où c'est assez formidable d'ailleurs dans le film, c'est qu'ils réussissent quand même à les intégrer dans le scénario, puisque finalement ça se mange, ça devient une arme. Enfin bon, on est dans la fantaisie la plus totale. Et là où c'est remarquable, c'est que quand on voit le film, ça fonctionne parfaitement parce que c'est totalement justifié par le fait qu'on par le fait qu'on soit dans un univers virtuel. De la même façon. Parce que la dimension fantasmatique chez Cronenberg est assez forte, et assez régulièrement on se prend à douter de la réalité, ou en tout cas à se poser la question de ce qui est imaginaire, fantasmé ou réel. Alors il y a d'autres exemples que Existence. Bon, alors typiquement l'adaptation du Festin nu de Burroughs, où là on est dans le délire le plus total, puisque les machines à écrire évidemment deviennent des espèces de coléoptères qui parlent, qui attaquent, qui ont leur propre comportement. Et puis il y a, je reviens quand même sur Dead Zone, où on se pose la question à certains moments de savoir en fait où on est. Et la phrase finale d'Existence, à savoir l'interrogation ultime, à savoir on est encore dans le jeu là, et même nous on ne sait pas. On a une fin ouverte avec ce film. C'est comme la fin d'Inception. On ne sait pas si la toupie tombe ou pas, quoi. On se demande en quel
Oui, c'est ça,
dans quel à quel statut on est encore coincé.
Il y a tellement de couches en fait qu'il pourrait y en avoir. Enfin, en travaillant un peu le truc, on peut très bien
c'est
inventer.
C'est une mise en abîme, d'une mise en abîme, ouais. D'une mise en abîme.
Ah bah clairement, dans Existence, on est perdu au bout d'un moment.
Ah oui, complètement.
Et
oui.
C'est toute l'idée.
Oui.
Mais en tout cas, concernant cette idée justement qu'il y a de développer dans le festin nu. Là, par contre, c'est un objet extérieur qui prend corps. Comment vous le reliez à la thématique générale de Cronenberg, dans laquelle c'est davantage le corps physique humain qui est transformé ? Question piège.
Non, là, à part une projection des personnages sur l'animation de l'objet, je sais pas vraiment. Puis après, je vous avouerai que j'ai pas vu le film.
Alors, j'ai un peu le même problème que mon collègue. après, je pense qu'un objet extérieur, ça peut être aussi un objet fantasmé comme étant extérieur, mais finalement, qui ne l'est pas tant que ça.
Un support.
Oui, un support fantasmatique justement, et il est extérieur que parce que c'est plus commode de l'extérioriser, mais au fond c'est un objet intérieur.
Ça, on le retrouve dans Vidéodrome par exemple,
oui,
avec
voilà.
La déformation de parce que du coup initialement en fait il y a ce côté déformation visuelle, l'effet de la télévision sur la perception de la réalité qui n'est d'abord pas une atteinte de son intégrité corporelle. C'est la télé qui bouge, la cassette vidéo qui se déforme, et ensuite ces transformations sont intégrées à lui-même, et après lui-même la perpétue aux autres.
Oui, de toute façon, concernant le festin nu, il y a une différence par rapport aux autres films, c'est que là, clairement, on est dans une adaptation d'un roman et qui est lui-même délirant, donc évidemment, il y avait moins de marge. Sauf évidemment dans l'interprétation visuelle de Burroughs, parce que là il faut quand même donner corps, c'est le cas de le dire, aux visions. Mais on a un certain nombre d'obsessions de Cronenberg dans le film, ça c'est clair. Sinon, de toute façon, il n'aurait pas porté son choix sur l'adaptation du roman. Mais en même temps, c'est un film qui est un petit peu, en marge de sa production habituelle, mais on est davantage sur en fait le travail d'une assez curieusement pour Cronenberg d'hallucination. Il y a un point assez intéressant d'ailleurs chez Cronenberg, c'est qu'il a toujours dit que un, il ne prenait pas de drogue et deux, il boit même pas parce que ça le rend plutôt malade. Donc en gros, il n'y a pas besoin. Hein, vous forcez surtout pas.
C'est étonnant, on aurait peut-être pu croire le contraire.
Ceci dit, Lynch non plus.
Hein. C'est vrai, c'est vrai. Donc finalement, c'est peut-être mieux même qu'ils s'arrêtent là où ils en sont, parce que c'est déjà chargé. Mais oui, je ne sais plus ce qu'on pouvait rajouter.
Comme il est -10, je proposerais bien de passer la parole au public si vous avez des questions.
Bonjour. Que pouvez-vous dire sur Crash ?
Ah, c'est vrai, on n'a pas parlé de celui-là et pourtant c'est un des plus beaux.
Ouais.
Merci.
Crash, c'est une modification corporelle plus classique, dans le sens où c'est une modification corporelle par prothèse. Des choses qui sont tout à fait de l'ordre du médical réalisable.
Après un acte violent.
Qu'est-ce que vous voulez sur quoi ?
Vous retrouvez ces thématiques, par exemple, dedans ?
Ouais. Alors, du coup, je réponds aussi. Il y a un point qui est assez intéressant dans Crash, c'est que l'on a. Parce qu'on parlait de l'importance de la ville et de la dissémination. Dans Crash, il y a un décor qui est très important, qui est le balcon, je trouve, de l'immeuble dans lequel vit le couple et qui leur permet d'avoir une très très vaste vue sur sur Vancouver, qui est une ville extrêmement mécanique, grise, avec beaucoup d'échangeurs comme autant de vaisseaux sanguins. Alors évidemment, c'est lié au thème du film, c'est-à-dire en fait l'adaptation du roman de Ballard, mais il y a cette dimension de la mécanique urbaine qui est très importante et de la mécanique en général. C'est-à-dire, finalement, une ville, c'est comme un organisme. Les voitures sont des sortes d'extensions de l'individu. Donc, on peut tout y faire. Et d'ailleurs, dans le film, ils y font à peu près tout, hein, à part accoucher. Il n'y a pas dans le film, mais c'est vraiment le seul truc. Et c'est vraiment les décors sont très importants chez Cronenberg, je trouve. Et dans Crash, ce plan est vraiment emblématique du thème général comme il a voulu le traiter.
Et puis il y a le thème du gourou aussi qui revient avec un des personnages principaux qui va entraîner les autres personnes ou essayer de garder cette communauté de personnes qui se font volontairement impliquer dans des accidents pour pouvoir avoir ces déformations physiques.
Ouais, le personnage du gourou, le problème du personnage charismatique, quoi, qui finalement qu'on retrouve aussi dans Faux Semblant, sur le mode de l'altérité entre frères jumeaux, mais c'est quand même toujours ça, ouais.
Bon, puis là, de toute façon, on parlait de psychanalyse, on est quand même dans Eros et Thanatos en permanence pendant tout le film.
Ouais, tout à fait.
Une autre question ?
Est-ce que vous auriez une explication pour... C'est extrêmement récurrent que les modifications corporelles chez Cronenberg soient liées à la sexualité, en tout cas une fascination sexuelle, et comme il y aurait quantité d'autres possibilités de modifications corporelles qui seraient en rien reliées à des considérations sexuelles. Pourquoi c'est aussi fréquemment le cas chez lui?
Alors moi j'aurais peut-être une explication, enfin en tout cas une ébauche. Je pense que ça vient d'un double intérêt. Enfin, déjà d'un vécu, puisqu'il vient du cinéma pornographique, hein, comme on l'a dit. Donc, c'était son corps de métier, sans faire de mauvais jeux de mots. Et ensuite, je pense que l'intérêt psychanalytique relève parfaitement quand même de la sexualité, des pulsions, et que donc, pour lui, c'est toujours le moyen de revenir à peut-être un homme le plus...
aux fondamentaux.
Le plus dénué, j'allais dire, de toute expérience, de toute civilisation, de tout, quoi, le plus brut, tout simplement possible. Et la sexualité, pour lui, c'est ça. Enfin, voilà, moi, j'expliquerai comme ça.
Ceci dit, elle n'est pas forcément montrée sous un jour extrêmement positif.
Ah non. Ça, c'est vrai, oui. C'est tout. Justement, on est très souvent dans la bestialité la plus pure, quoi.
Oui, ou le côté viande.
Ou
le côté très viande. Enfin,
oui, voilà,
très organique.
Ou la viande, oui, tout à fait. Oui.
Une autre question ?
Oui. Est-ce qu'il a expliqué pourquoi il avait changé de thématique dans la fin de sa carrière ? Ce n'est plus des films fantastiques, ce ne sont plus.
Oui, donc alors ça, c'est une question que je me suis beaucoup posée parce que j'en ai voulu. Non mais bon, j'aimais beaucoup les deux premières, les deux premiers tiers de sa production. Et alors, je dis pas que les autres films sont mauvais parce que c'est loin d'être le cas, et notamment ils sont beaucoup plus soignés. En termes de photographie, de montage, etc. C'est-à-dire que autant au début, on avait vraiment de la série B. Les tout premiers comme Frisson, Rage et tout sont finalement assez sont tournés très vite avec assez peu de moyens. Quand on regarde le coût de production des films de Cronenberg, c'est vraiment extrêmement bas. Et donc, du coup, là, il n'y avait pas de temps pour le pre-light, ça coûte assez cher en production, et on sent bien que c'était fait très rapidement. À la fin, il n'a pas beaucoup plus d'argent, mais par contre, il soigne davantage la forme. Alors maintenant, pourquoi avoir choisi, disons, avoir changé de voix? Je pense qu'après une dizaine de films tournant autour d'un même sujet, bon, il en avait probablement le sentiment d'en avoir fait le tour, de la même façon que là il a décidé il y a quelques années d'arrêter la réalisation de films et de se tourner plutôt vers l'écriture de romans. Et pour une raison qu'il a exprimé, qui est que bon, d'abord un, il était un peu trop vieux pour ses conneries, pour reprendre l'expression classique, mais que surtout il en avait fait le tour, ça l'intéressait plus tellement.
Puis là, ça laisse une niche aussi pour Cronenberg fils, qui a réalisé un premier film antiviral, qui reprend donc il y a toujours le corps, mais à travers, en tout cas pour ce film, à travers les pathologies. Donc essayer de dans une société où on répète, on mime le défaut physique d'une personne célèbre sur soi-même, où on essaye d'attraper les mêmes bactéries ou les mêmes virus qui ont entraîné, je sais pas moi, un bouton de fièvre, et de le reproduire soi-même. Et il y a tout cet engouement autour de ça. Et donc le fils reprend un peu le côté très corps organique, mais peut-être pas sous le même angle que le père.
De toute façon, ça sera impossible.
Ce sera un peu dommage.
Oui.
Une dernière question ? Pour les 57, sinon ça va être l'heure de la récré, mais prématurément, c'est dommage. Entendu, ben merci beaucoup pour avoir assisté à cette table ronde.
Merci.
Et bonne fin d'après-midi.